Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal avec Anne Lorchouin. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. En Turquie, à Istanbul, le jury du prix Albert Londres a remis il y a quelques instants son prix à la journaliste du Monde Élise Vincent, un prix célébré dans un pays où la liberté de la presse est à terre et où un journaliste saoudien a été assassiné il y a peu. Nous y reviendrons notamment avec l'invité de cette édition, Johan Bir, qui est le responsable de l'ONG Reporters sans frontières pour l'Europe centrale et les pays de l'Est.
Dans cette édition, nous irons également en Allemagne où la chancelière allemande appelle ses partenaires européens à cesser le commerce des armes avec l'Arabie saoudite tant que toute la lumière n'aura pas été faite sur l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul.
Le projet de budget italien n'est pas satisfaisant pour la Commission européenne. Le président du Conseil italien prend la parole en ce moment pour le justifier, voire le modifier un peu. Le chiffre qui pose problème, c'est celui du déficit prévu, 2,4% du PIB. C'est beaucoup trop, estime notamment Pierre Moscovici, nous l'entendons.
En France, c'est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux et ravivé les mauvais souvenirs de nombreux professeurs, celle qui montre à un adolescent une arme factice au poing menaçant sa professeure dans un lycée de Créteil.
Et ce week-end, les témoignages ont afflué sur les réseaux sociaux sous le mot-clé « pas de vague ». Nous y reviendrons avec Benoît Bouscarel. Nous reviendrons aussi sur la campagne officielle qui commence en Nouvelle-Calédonie. Le scrutin sur l'indépendance de ce territoire a lieu dans 2 semaines. Sur place, aucun incident n'est à déplorer pour l'instant, ce qui était pourtant craint. Et puis, saura-t-on un jour pourquoi tant de bébés sont nés sans bras ou sans main dans l'Ain ? L'enquête qui n'avait abouti à rien, selon l'Agence Santé publique France, sera relancée. Annonce de la ministre de la Santé hier, dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia.
Une archéologie de la haine, une compréhension du phénomène djihadiste aussi, c'est ce à quoi nous invitent chacun à leur manière les invités de la Grande Table des idées. Aujourd'hui, Jean Birnbaum et Marc Weitzman qui signent un temps pour haïr la haine. Trait d'époque, signe des temps, nous en parlerons donc dans une vingtaine de minutes.
L'appel de l'Allemagne à ses alliés européens pour stopper les ventes d'armes à Riyad aura-t-elle un écho ou même un effet ? Berlin a donc incité ce matin ses partenaires à suspendre, après elle, toutes leurs ventes d'armes tant que toute la lumière n'aura pas été faite sur la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul. Riyad, après avoir longuement nié que ce dernier avait été tué le 2 septembre dernier au consulat saoudien, l'a enfin admis, mais elle ne parle que d'une altercation qui aurait mal tourné. Si Donald Trump dit trouver crédible cette explication, ça n'est pas le cas donc d'Angela Merkel qui attend plus de clarifications. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Anne-Laure, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Berlin, l'Allemagne, qui stoppe donc ses ventes d'armes à destination de Riyad.
Oui, pour l'instant, c'est une suspension des exportations avant peut-être une annulation des contrats, prévient ce matin Peter Altmaier, le ministre allemand de l'économie, dans une interview télévisée à la ZDF. À la fin septembre, près de 420 millions d'euros de contrats d'armement étaient autorisés avec l'Arabie Saoudite. C'est pour l'Allemagne le deuxième marché dans le monde après l'Algérie. Et Berlin appelle ses partenaires européens à lui emboîter le pas. Ce n'est que si tous les gouvernements sont sur la même ligne que cela produira de l'effet sur Riyad, prévient le ministre de l'économie, il n'y aura aucun impact positif si nous suspendons les exportations d'armes et si d'autres pays nous remplacent, notamment la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, les principaux fournisseurs d'armes au Royaume. Berlin laisse une porte entrouverte dans l'attente d'explications sur la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Hier soir, la chancelière Merkel estime qu'il y a encore des choses qui doivent être éclaircies. Tout, dit-elle, n'a pas encore été dévoilé. L'Allemagne, qui promet maintenant un boycott de la conférence des investisseurs en Arabie Saoudite, une sorte de Davos du Moyen-Orient qui commence demain. C'est ici un appel au milieu économique, aux entreprises allemandes, notamment Siemens, pour qu'elles fassent pression, ces entreprises, à leur tour sur Riyad.
Merci Ludovic Piétenu. Et puis à son tour, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé hier ne pas exclure que le Canada puisse annuler un important contrat de vente d'armes à l'Arabie Saoudite. En Turquie, où était-il tué le journaliste Jamal Khashoggi, la liberté de la presse est à terre et c'est justement pour cette raison que les jurés du prix Albert Londres ont fait le déplacement à Istanbul pour remettre ce prestigieux prix au meilleur journaliste français de terrain. Un prix décerné donc cette année à Élise Vincent, journaliste au Monde, pour une série de 6 enquêtes signées entre juin 2017 et juin 2018, parmi lesquelles le djihad derrière les barreaux, Génération salafiste ou le dossier Logan sur le terrorisme d'extrême droite. journalistes. Les membres du jury ont salué la constance et la rigueur avec lesquelles Élise Vincent couvre les crispations françaises depuis plus de 8 ans. Pour les journalistes turcs, c'est une autre histoire. S'ils veulent critiquer le pouvoir turc, leur travail est entravé, voire leur vie mise en danger. Laura Lavène.
Oui, puisque la Turquie, c'est juste la plus grande prison du monde pour les journalistes. Au total, selon Reporters sans frontières, il y a 100 journalistes au moins actuellement incarcérés dans les geôles turques. Autrement dit, la liberté de la presse n'est plus une réalité en Turquie. C'est ce qui lui vaut la 157e place au classement mondial de la liberté de la presse. D'ailleurs, la Turquie a chuté de 2 places par rapport à l'an passé et ça n'a rien de surprenant puisque le pays mène une véritable chasse aux journalistes, une chasse qui s'est accélérée il y a 2 ans. Après la tentative de coup d'État, le putsch raté de l'été 2016. Depuis, eh bien, les purges se sont succédées dans le monde des médias, le tout sous couvert de l'état d'urgence. Recep Tayyip Erdogan a liquidé ainsi des dizaines de journaux sur ordre des juges. Des journaux soupçonnés d'être liés de près ou de loin à la confrérie Gulen, du nom de Fethullah Gulen, exilé aux États-Unis depuis des années, accusé lui aussi de complot par le pouvoir.
Merci Laura Lavène, vous restez avec nous pour questionner l'invité de ce journal. Bonjour Johan Bir.
Bonjour.
Vous êtes responsable du bureau Europe de l'Est, Asie centrale de RSF, Reporters sans frontières. Alors, décerner aujourd'hui le prix Albert Londres depuis la Turquie, c'est hautement symbolique. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que les journalistes en Turquie, soit ils sont avec le pouvoir, ils vont dans le sens du pouvoir, soit ils risquent gros?
Tout à fait. C'est vraiment un geste fort que la remise du prix Albert Londres à Istanbul aujourd'hui. Un geste fort de solidarité avec les journalistes turcs qui font face à des pressions vraiment sans précédent. Et pourtant, la Turquie est un pays qui en a connu des pressions dans son histoire très fortes contre les journalistes. Mais la répression à laquelle on assiste actuellement, il faut bien en prendre conscience de son ampleur. Les chiffres ont été donnés effectivement. Pour vous donner des exemples, il y a 3 semaines, le tribunal régional d'Istanbul a confirmé en appel la condamnation à la prison à vie aggravée de 3 journalistes de renom, Ahmet Altan, Mehmet Altan et Nazlı Öcak, qui sont vraiment des journalistes très connus dans le pays. Et prison à vie aggravée, ça veut dire que ces personnalités qui sont âgées entre 65 et 75 ans devront finir leur jour en prison sans possibilité de sortie pour quelque motif que ce soit, même s'ils sont malades, même s'ils sont, s'ils doivent voir de la famille. Donc ça, c'est un exemple récent. Mais il faut bien comprendre que les procès de masse se succèdent en Turquie toutes les semaines. On a des procès de journalistes. Notre représentant en Turquie, Erol Önderoğlu, passe plusieurs jours par semaine au palais de justice pour assister à des procès de confrères. Et lui-même est en procès. J'étais à Istanbul il y a 2 semaines pour soutenir notre représentant qui risque jusqu'à 14 ans de prison pour propagande terroriste pour avoir pris part à une campagne de solidarité avec un journal kurde, Özgür Gündem. Et donc pour compléter, effectivement, la répression, elle s'abat sur tout le spectre du journalisme indépendant. Non seulement, effectivement, ceux qui sont censés ou soupçonnés d'être proche de la confrérie Gulen, mais également des journalistes de tendance de gauche, nationalistes, indépendants, d'investigation. On vient de nominer la journaliste d'investigation Çiğdem Toker au prix Reporters sans frontières pour la liberté de la presse cette année. C'est une journaliste qui risque jusqu'à 3 millions de livres turcs, c'est-à-dire à peu près 450 000 euros de dommages et intérêts pour ses enquêtes sur la corruption au plus haut niveau.
Et est-ce que ce genre de manifestation, le prix Albert Londres en Turquie, peut exercer une réelle pression sur le gouvernement?
Alors, une pression immédiate, ce n'est pas dit, mais en tout cas, dans un premier temps, c'est un geste fort que la profession en Turquie apprécie, et c'est un geste fort que la communauté internationale aussi n'oublie pas ce qui se passe en Turquie. Et c'est extrêmement important, parce qu'on assiste un petit peu à une fatigue des médias, de la communauté internationale, vis-à-vis du sort des journalistes en Turquie. On en a beaucoup parlé il y a 2 ans, il y a 1 an. Force est de constater que la situation ne change pas ou même s'aggrave, et dans ce contexte-là, c'est extrêmement important de rappeler très fréquemment à la Turquie que non seulement on ne va pas l'oublier, mais que la pression doit augmenter. On appelle la communauté internationale à faire davantage.
Et alors, qu'est-ce qu'elle peut faire en plus? Est-ce qu'elle a vraiment des leviers efficaces et est-ce qu'elle souhaite se servir de ces leviers, la communauté internationale?
Alors nous, à RSF, on est très actifs en termes de plaidoyer auprès des États membres de l'Union européenne, auprès de la France, auprès de l'Allemagne, où était récemment Recep Tayyip Erdogan. On s'arrange pour que tout déplacement important de Recep Tayyip Erdogan s'accompagne d'une mobilisation très forte de la société civile, comme il y a eu 3 manifestations de RSF Allemagne lorsque Erdogan était à Berlin le mois dernier. Mais également, on s'est arrangé pour que les plus hautes autorités allemandes, le président, remettent à son homologue turc une liste de journalistes emprisonnés dont les cas sont vraiment extrêmement difficiles. Donc on s'arrange pour que ces cas soient abordés au plus haut niveau. Mais il faut en faire plus, il ne faut pas donner à la Turquie l'illusion qu'on va oublier ce qui se passe. Et c'est important, particulièrement justement aujourd'hui, quand on écoute avec... c'est très ironique d'entendre les grandes proclamations d'Ankara sur la liberté de la presse, eu égard à l'affaire Jamal Khashoggi et l'Arabie Saoudite, quand on sait ce qui se passe dans le pays. Donc aujourd'hui, il est extrêmement important que les partenaires de la Turquie, l'Union européenne, les États membres, mais également les États-Unis par exemple, lui rappellent que la situation de la liberté de la presse aura un impact. Et au premier chef, on appelle le Conseil de l'Europe à agir plus fermement, puisque la Turquie est un État membre fondateur du Conseil de l'Europe, qui est censé être l'organe qui garantit les droits fondamentaux sur le continent. Et à ce titre, la Cour européenne des droits de l'homme doit rendre des décisions le plus vite possible sur les journalistes emprisonnés dans ce pays, puisqu'il n'y a aucun recours effectif en Turquie aujourd'hui.
Alors rapidement, est-ce qu'on n'est pas un peu piégé, notamment les partenaires européens, par cette situation avec la Turquie par rapport aux réfugiés? En gros, on donne de l'argent à la Turquie pour qu'elle évite que le flot de réfugiés ne passe les frontières européennes. Et à ce titre-là, on ne crie pas très fort sur tout ce qui se passe en matière des droits de l'homme et de liberté de la presse en Turquie.
C'est un véritable chantage qu'essaye de mettre en place Recep Tayyip Erdogan, et un chantage qui a pu se montrer assez efficace, effectivement. On voit malgré tout que la parole s'est durcie au sein de l'Union européenne et des États membres, notamment l'an dernier, et on a aujourd'hui des proclamations assez fortes. L'Union européenne a dit clairement qu'elle n'envisageait pas un approfondissement de l'union douanière, par exemple, avec la Turquie. C'est un geste important. Que les négociations d'adhésion étaient pour l'instant de facto suspendues, c'est important également. Mais il faut aller au-delà. Il faut obtenir la libération de ces dizaines de journalistes emprisonnés en Turquie et l'annulation de l'annihilation du pluralisme auquel on assiste depuis quelques années.
Merci beaucoup, Johan Bier. Je rappelle que vous êtes responsable du bureau Europe de l'Est, Asie centrale, de Reporters sans frontières. Et merci, Laura Lavenne.
Merci.
L'Italie veut bien discuter et la Commission européenne ne veut pas de crise. Un contexte à peu près apaisé, donc, alors que le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, avait jusqu'à midi ce lundi pour répondre aux questions de la Commission sur son projet de budget pour 2019. Un projet de budget qui ne satisfait pas du tout la Commission. Jeudi, elle a remis une lettre au ministre de l'économie italien pour pointer ce qu'elle considère comme une grave entorse aux règles européennes en matière budgétaire. Le chiffre qui fâche, c'est celui du déficit prévu, 2,4% du PIB italien, quand le précédent gouvernement tablait, lui, sur 0,8%. 2,4% pour financer les nombreuses et ambitieuses mesures prévues par la coalition au pouvoir, avancement de l'âge de départ à la retraite, création d'un revenu citoyen, etc. La Commission européenne, donc, dit ne pas vouloir de crise, mais pour l'instant, rien ne lui va dans le budget italien. Le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, était ce matin l'invité d'Ali Badou sur France Inter.
Quand je suis allé à Rome, c'était pas pour annoncer des décisions, c'était pour poser des questions. Et j'en ai toujours. D'abord, une question sur les déficits. Si on parle de déviation sans précédent, c'est parce que, non pas le déficit facial, 2,4%, mais le déficit dit structurel, celui qui est indépendant de la croissance, celui qui augmente la dette, est beaucoup trop élevé. Théoriquement, il devrait baisser de 0,6% compte tenu du fait que l'Italie a une dette de 130%. Il augmente de 0,8%. Donc, sans vouloir être technique, il y a un écart de presque 1,5 point. Et jamais ça ne s'est passé comme ça depuis que nous avons le pacte de stabilité de croissance. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est notre règle commune. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'était précisément sur le niveau de la dette. Il est à 132%. C'est le deuxième après celui de la Grèce. Et bien sûr, c'est quelque chose qui est un fardeau sur les épaules des Italiens eux-mêmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'aime pas l'expression « budget du peuple », parce que quand un peuple est très endetté, ce sont finalement les citoyens.
On va y revenir, l'expression est employée par le gouvernement italien.
Et puis, la troisième question que je posais, c'était celle de la croissance, parce qu'ils font des hypothèses de croissance. Ils pensent en vrai qu'augmenter les dépenses publiques va créer de la croissance. Nous sommes dans une période de surchauffe. L'opinion de la plupart des économistes, c'est que ce ne sera pas le cas. Donc voilà ces questions. Maintenant, j'attends les réponses. Et ensuite, la Commission en débattra demain. Et nous verrons quelle est l'étape suivante de la procédure. Ce qui va compter aussi, c'est l'esprit de leur réponse. C'est-à-dire, est-ce qu'ils s'inscrivent ou pas dans l'esprit commun européen et dans la règle européenne ?
Pierre Moscovici. En Australie, on apprenait il y a plusieurs mois l'ampleur des abus, notamment sexuels, commis par diverses institutions australiennes sur des dizaines de milliers d'enfants. Et cependant, des années, entre 1950 et 2010, 4000 institutions laïques et religieuses, policières également. Aujourd'hui, le Premier ministre australien a officiellement présenté les excuses de l'État à ces dizaines de milliers de victimes. Un jour historique qui marque la fin du déni et plus largement de la culture du déni qui avait cours dans le pays. Les précisions depuis Melbourne de Caroline Lafargue.
Les Australiens se sont regroupés par centaines au pied d'écrans géants sur des terrains de sport, dans des mairies et au Parlement à Canberra pour assister en direct au discours d'excuses du Premier ministre Scott Morrison. Il a fallu 5 ans d'enquête nationale de 2012 à 2017 pour révéler l'ampleur de la tragédie. 8000 victimes ont été entendues par cette commission d'enquête, agressées sexuellement par des adultes à l'école, dans les orphelinats, des clubs de sport, des mouvements de jeunesse et des institutions religieuses, surtout catholiques. Plus de 2500 cas ont ainsi pu être référés à la justice. À l'époque, cependant, beaucoup n'ont pas été crus. Aujourd'hui, Scott Morrison vient réparer ce tort.
We must be so humble.
Avec humilité, nous devons nous jeter aux pieds de ceux que nous avons abandonnés et les supplier d'accepter nos excuses. Des excuses seulement, car nous n'osons pas vous demander pardon. Les excuses d'une nation saisie de compassion et qui espère vous atteindre dans les ténèbres où vous avez vécu pendant si longtemps.
Pour la plupart des victimes, ces excuses arrivent bien tard, mais restent nécessaires. Certaines, au contraire, ont décidé de les boycotter. Elles réclament des actes concrets et des réparations. Un fonds d'indemnisation a été créé, mais pour être éligible, les victimes doivent à nouveau raconter en détail les agressions qu'elles ont subies, ce qui revient à revivre leur traumatisme. D'autre part, le gouvernement fédéral a décidé de baisser le plafond d'indemnisation recommandé par la commission d'enquête, un geste qui révolte beaucoup de victimes.
Caroline Lafarge.
Midi 48 sur France Culture, la suite de votre journal, Anne-Laure Chouin. Un adolescent debout dans une salle de classe, arme au poing, braqué en direction de sa professeure. La vidéo filmée dans un lycée de Créteil a suscité l'indignation tout ce week-end jusqu'au ministre de l'Éducation nationale.
Oui, Jean-Michel Blanquer qui annonçait ce matin un plan d'action à ce propos dont les détails sont encore assez flous. L'arme était factice. L'élève réclamait à sa professeure de le noter comme présent malgré son retard. Ce jeune homme de bientôt 16 ans a été mis en examen hier soir pour violence aggravée, remise en liberté avec des mesures de contrainte provisoire et sera jugé bientôt par un juge des enfants. Mais depuis 2 jours, sur les réseaux sociaux, une vague de témoignages de professeurs ayant subi eux aussi des agressions d'élèves s'est soulevée, Benoît Bouscarel.
Oui, il y a un nouveau hashtag soupape, exutoire, censé permettre une libération de la parole. Un exemple parmi tant d'autres, par John Watt. Un de mes élèves avait ramené un couteau pour menacer certains de ses camarades. Réponse de la hiérarchie, l'année est bientôt terminée, il passe au collège l'année prochaine. C'est peut-être pas nécessaire de se lancer dans une procédure inutile. L'effet de ce hashtag est comme à chaque fois assez saisissant. Tout paraîtrait simple à la lecture de ces témoignages. Et l'extrême droite, d'ailleurs, n'a pas tardé à se saisir de ce hashtag, à le noyauter pour tenter de faire valider ses théories sur le laxisme généralisé à l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer, le ministre, a bien compris ce matin la nécessité de réagir.
La consigne que j'ai donnée depuis que je suis arrivé dans mes fonctions de ministre, depuis un an et demi maintenant, c'est on ne met aucun problème sous le tapis. Et je le dis clairement, je le dis à votre micro, mais je l'ai dit à tous les cadres de l'éducation nationale depuis le début, on ne met pas les problèmes sous le tapis, on n'est pas dans la logique du pas de vague. Au contraire, à chaque fois qu'il y a un fait, petit, moyen ou grand, il doit être sanctionné de façon proportionnée.
Jean-Michel Blanquer, donc, ce matin sur l'antenne de France Info, pour qui rien jamais n'est passé sous silence en matière d'agression de profs. Écoutez ce qu'en pense Valérie Sipahi-Malani, secrétaire générale adjointe du SNES-FSU.
C'est une formule un peu facile parce que suivant les lieux, suivant les moments, suivant les tranches d'âge, le rien peut avoir beaucoup de significations différentes. Donc notre métier à nous enseignants et aussi au personnel d'éducation dans les établissements, c'est justement d'être capable de prendre du recul par rapport à un acte, de le replacer dans son contexte et de faire le nécessaire ensuite pour que ça ne se reproduise pas. Si l'incident est grave, un dépôt de plainte est nécessaire et à ce moment-là, il doit être accompagné par l'institution. Si l'incident est moins grave, nous avons une échelle de sanctions proportionnées, ce qu'on appelle dans notre jargon des sanctions réparation, qui doivent permettre de mettre l'élève en face de ses responsabilités et de lui rappeler le droit. Et c'est là le plus important.
Valérie Sipahi-Malani qui rappelle que le problème de la suite à donner aux agressions sur les professeurs ne se passe pas qu'avec la hiérarchie, chef d'établissement ou inspecteur d'académie. Les syndicats sont là aussi pour aider les profs et les accompagner dans les procédures disciplinaires. Hashtag communauté éducative.
Merci beaucoup Benoît Bouscarel. Vous évoquiez l'extrême droite. Eh bien, on a appris ce matin la mort du négationniste Robert Forisson, décédé hier à l'âge de 89 ans à Vichy d'une crise cardiaque. Ancien maître de conférences à l'université de Lyon 2, Robert Forisson a été condamné à de nombreuses reprises pour contestation de crimes contre l'humanité. Les thèses immondes de cet homme vivent encore, a réagi ce matin la Fondation Shoah, qui ajoute « Le combat pour la vérité historique continue face aux faussaires de l'histoire ». Forisson, un homme qui a fait carrière dans le négationnisme, qu'il a porté et qu'il a exporté dans le monde arabe notamment, c'est un universitaire agrégé de lettres, mais en aucun cas un historien. Ça, c'est le commentaire ce matin de Valérie Igounet, historienne, elle, spécialiste du négationnisme et de l'extrême droite. La France va-t-elle perdre un de ses territoires d'outre-mer ? Dans 15 jours se tient le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. La campagne officielle a démarré ce matin. Sur place, beaucoup craignaient à cette occasion la résurgence de tensions, voire de violences, mais il n'en est rien. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Anne Lorchouin.
Tout se déroule dans le calme, et tant mieux. Comme si ce scrutin n'apparaissait pas comme un véritable enjeu aux yeux des Calédoniens.
Oui, c'est assez surprenant la manière dont la population calédonienne aborde ce référendum. Ce n'est pas un sujet qui fait vraiment débat, qui alimente les discussions, et surtout, vous le disiez, on n'assiste pas à une résurgence des tensions que certains redoutaient entre communautés. C'est ce que nous explique la correspondante sur place de l'agence France Presse et du journal Le Monde, Claudine Véry.
On ne peut pas dire qu'il y ait des démonstrations, je veux dire, il n'y a pas une avalanche de drapeaux bleu, blanc, rouge dans Nouméa. Bon, il y a beaucoup de drapeaux kanak en brousse, mais ça reste mesuré. Il n'y a pas de tag sur les murs, il n'y a pas de démonstration, on va dire, agressive. Les gens ont beaucoup appréhendé cette échéance. Mais au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'on y arrive. Finalement, c'est comme si un peu la baudruche se dégonflait un petit peu. Les gens savent que c'est important, mais que de toute façon, le résultat est plus ou moins connu d'avance. Et il va falloir gérer l'après. Il va falloir continuer à construire dans la paix comme on l'a fait depuis 30 ans. Et finalement, la vraie question, elle est là.
La principale explication à cette situation, et vous l'avez entendu, que le résultat de la consultation est connu à l'avance, ce sera non. La Nouvelle-Calédonie ne va pas décider de prendre son indépendance. Un sondage réalisé cet été donnait une proportion de 30% des électeurs en faveur du oui, 70% en faveur du non. Et ça s'explique assez aisément par le fait que la population d'origine kanak n'est pas majoritaire en Nouvelle-Calédonie. Elle représente 40% seulement des 270 000 habitants. Par ailleurs, la jeunesse kanak a beaucoup de mal à comprendre cet attachement des indépendantistes, des anciens, à revendiquer l'indépendance sans savoir ce qu'on en fait. Il n'y a dès lors pas vraiment d'enjeu au scrutin du 4 novembre et c'est donc l'après qui va être important, les mois qui viennent au cours desquels il faudra décider ce qu'on fait. Est-ce qu'on organise un nouveau référendum comme le prévoient les accords de Nouméa ou bien est-ce qu'on bâtit autre chose, quelque chose qui intégrerait le fait que la Nouvelle-Calédonie n'a peut-être pas besoin de quitter la France pour se construire un avenir ? Il va falloir discuter tout ça. On pensait que ces discussions auraient lieu avant, ce ne sera pas le cas, elles devront avoir lieu après. Et toute la question est de savoir comment la classe politique réussira à associer la population calédonienne à ces discussions.
Merci Stéphane Robert. Saura-t-on un jour pourquoi dans l'Ain, plusieurs bébés sont nés sans bras ou sans main dans un laps de temps suffisamment resserré pour suspecter une cause commune ? Il y a quelques jours, l'Agence nationale Santé publique France avait conclu que le mystère restait entier. Ce week-end, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, affirmait ne pas pouvoir se satisfaire de cette non-explication. Une nouvelle enquête va donc être lancée. Bonjour Véronique Reberotte.
Bonjour.
Alors la question est maintenant de savoir qui pour diligenter cette nouvelle enquête ?
Eh bien, ceux-là même qui, dans un rapport rendu public donc début octobre, n'avaient pas pu donner d'explication sur les raisons de ces naissances. Aucune cause n'avait été avancée par l'association Santé publique France, chargée donc d'enquêter. Elle avouait ne pas avoir pu établir de lien entre les mères, les familles de bébés mal formés. Normal, explique Emmanuelle Amard, directrice générale du registre des malformations en Rhône-Alpes. C'est elle qui a médiatisé cette affaire. Ces familles, dit-elle, n'ont même pas été entendues lors de cette première enquête. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, demande donc à nouveau à Santé publique France, avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, de mener de nouvelles investigations. Emmanuelle Amard, lanceuse d'alerte donc dans ce dossier, rejoint la ministre sur ce point. Il faut savoir la vérité, mais cela passera, selon elle, par une expertise indépendante. On l'écoute.
Il était insupportable que ces cas groupés de malformations restent sans explication. je pense qu'il faut réunir des spécialistes des malformations, des spécialistes de l'épidémiologie. Il y en a beaucoup de très bonne qualité, mais évidemment qui n'ont pas été partie prenante dans cette affaire. On ne peut pas demander à des gens de l'INSERM, vous avez vu le torchon qui a circulé, on ne peut pas demander des gens de l'INSERM ou de Santé publique France de revenir, se dédire de ce qu'ils ont annoncé publiquement.
Emmanuelle Amar, donc directrice générale du registre des malformations en Rhône-Alpes, chez nos confrères de France Info ce matin. Et alors que la région Rhône-Alpes, entre autres, a menacé de retirer ses subventions au registre de malformations en Rhône-Alpes, la ministre de la Santé a dit ce week-end qu'il était hors de question de mettre fin à ces subventions qui mèneraient au licenciement de toute une équipe, donc fin décembre.
Merci beaucoup Véronique. Robert, le temps de ce lundi pour finir, un temps assez largement ensoleillé sur la moitié sud, plus gris sur la moitié nord, des températures plus fraîches, les nuages seront présents de la Charente à la Lorraine avant le retour des éclaircies par la Bretagne. Les températures maximales entre 14 et 17 degrés au nord de la Seine, 17 à 22 sur le reste du pays. C'est la fin de ce journal préparé avec François-Charles Domergue. Vous retrouverez Stanislas Vazac à 18h.